Sama ya kushipa bantu, ya kwenzi matu kwa abuni, bantu wa kufo, ya kufuli abuni. Watu jinabu kaba bika ya ni posibite materiya siyo plasu wa kufo, ya kufo, ya kutanya bantu. Guvano maujuru kutuma, londa funi lujilo wa kutanya bantu. Wa bantu wa manu kumano kufu ya abuni, turu kupeta mfinjiye londa kukunye.
Plus de 100 personnes sont mortes ces trois derniers mois d'une maladie non encore identifiée dans les villages de Kampungu et Mombo Munene, dans les territoires de Mueka et Luebo. D'après l'inspection médicale provinciale, cette maladie a des signes similaires à ceux de la fièvre typhoïde. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette maladie? Nous le saurons tout à l'heure avec nos invités. Que doit faire la population pour l'éviter? Certainement que nos invités nous le diront. Vous pouvez déjà poser vos questions, vous qui nous suivez à partir du Kasaï, au 081 070. 2050. À Kolwezi, ils sont plus de 20 familles de la SNCC Kolwezi installées dans des maisons sans toiture dans un camp de la SNCC. Gaston Moussud est justement en ligne pour nous donner plus d'informations à ce sujet. Gaston, vous êtes avec nous. Comment font alors toutes ces familles pour se protéger contre les intempéries?
Pour se protéger contre les intempéries, ces familles utilisent des bâches en plastique pour couvrir leur maison. Mais en attendant, parce qu'il y a des fenêtres qui ne sont pas là, ils utilisent le carton pour jouer rôle de fenêtres et portes. Mais en attendant, ils vivent là-bas sans trop de moyens.
Voilà, donc c'est vraiment difficile pour toutes ces familles. Certainement que la SNCC a des solutions pour remédier à tout cela. On aura des précisions avec nos invités. Ils viendront nous donner toutes ces réponses. Alors vous qui nous suivez à Kolwezi, habitants de Kolwezi, surtout vous les familles concernées par ce problème, vous pouvez déjà réagir au 081 070 2050 pour nous donner d'autres détails. A tout à l'heure, Gaston.
Merci, Nicole.
Jean Longuembo, vous êtes avec nous dans cette balade à travers la RDC. Quels sont les autres sujets qu'on va développer aujourd'hui dans Capi Action?
Oui, ben, après Kolwezi, nous nous rendrons à Mbandaka. Ça sera autour des 10h-10h30 où nous allons parler d'une situation qui se passe autour de Guadolité avec l'ONG World Child qui s'engage à encadrer des enfants dits marginalisés. Et puis Kalemi viendra ensuite donc autour des 10h30-11h avec la promotion de la femme du Tanganyika. François Xavier Mibé s'est penché sur la question et nous aurons Opportune Bilonda, chef de la cité de Kalemi et présidente de la commission politique du Refetang, pour nous éclairer. 11h-11h30, disons le sujet portera autour des travaux de réhabilitation d'une section de l'avenue des Huileries. C'est depuis plusieurs semaines que l'avenue de la démocratie ex-Huilerie est fermée. On en saura un peu plus avec Tati Mapoukou autour de ces heures-là. Kabinda, ça sera le point de chute de notre émission pour parler de la scolarisation des enfants vulnérables. Surtout que nous sommes en période de rentrée scolaire. Donc, nous allons mettre un accent sur la scolarisation des enfants vulnérables avec Théophile Lombé de Radio Veritas de Kabinda et Joseph Katambay, chef d'antenne BIC Kabinda, est notre invité autour de 11h30 midi. Donc, prenez rendez-vous avec nous en composant le 081 070 2050 pour les SMS ou carrément écrivez à action@radiocapi.net.
Nous allons partout afin de parler des problèmes qui vous touchent directement. Si vous avez des problèmes à nous soumettre, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse email. À la mise en onde de Paula Mwinkeu, à la réalisation Jeudi Kachama, cette émission est coordonnée par Marcel Ngombo.
Sur 93.
Nous sommes là à Kananga, précisément du côté de Kampungu, où nous apprenons, et même du côté de Mombo Munene, dans le territoire de Mueka et Luebo, où nous apprenons que plus de 100 personnes sont mortes ces trois derniers mois d'une maladie non encore identifiée. D'après l'inspection médicale provinciale, cette maladie a des signes similaires à ceux de la fièvre typhoïde. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette maladie? Nous aurons tout à l'heure des réponses avec notre invité, mais d'abord, le point avec notre confrère Pierrot et la Mégie. Pierrot, vous êtes avec nous, hein?
Oui, oui, je suis en ligne, Nicole.
Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement de ce côté-là du Kasaï, notamment du côté de Kampungu et Mombo Munene, qui sont deux villages de Luebo et Mueka?
Effectivement, Nicole, il y a maintenant 3 mois passés, c'est-à-dire depuis le début du mois de mai, plusieurs personnes sont décédées des suites des maladies similaires. Cela s'est passé dans ces deux villages, Kampongo et Monene. Mais au début, la maladie était dans le village de Kampongo. Mais notons que beaucoup de gens qui sont morts sont ceux habitant le village de Monene. Selon l'inspection médicale provinciale, la maladie a fait beaucoup de victimes et beaucoup de victimes aussi. Beaucoup de personnes ont été aussi hospitalisées par rapport à cette maladie, comme je le disais tout à l'heure, que ce sont des maladies similaires, ce qui veut dire que ces personnes sont décédées de presque même signe qui était noté sur leur corps.
Mmh. Mais d'après les informations en notre possession, en parlant des signes ou des symptômes, on dit que cette maladie aurait des symptômes semblables à la maladie typhoïde. Vous avez vérifié cette information?
Oui, nous avons vérifié cette information. Toujours, les sources médicales nous ont fait savoir que le malade présente d'abord le problème de maux de tête. Il y a aussi la fièvre, il y a la diarrhée, il y a les douleurs abdominales, il y a aussi les vomissements. Tout cela entraîne un état de déshydratation. Cela veut dire que le malade perd beaucoup de liquide. Et comme le malade perd les liquides, et plus rapidement dans 3 à 4 jours qui passent, et c'est la mort qui survient. Mmh. C'est-à-dire que ces signes, ce sont le même signe qu'on rencontre aussi en cas de fièvre typhoïde. Mais on n'a pas confirmé que cette maladie, c'est la fièvre typhoïde, mais au moins, la maladie a les signes et les symptômes qui ressemblent à ceux de la fièvre typhoïde. Mais avec une particularité, c'est que la mort intervient plus vite, 3 à 4 jours après la présentation de tous ces signes.
Oui, on parle d'une maladie non encore identifiée, elle n'a pas de nom,
oui.
Pierrot et Lamegi. Mais nous avons l'impression que dans ces deux villages, nous rappelons qu'il s'agit des villages Kampongu et Mombomunene dans le territoire de Mweka et Luebo, il y a déjà plus de 100 personnes qui sont décédées des suites de cette maladie. On a l'impression que la population est abandonnée à son triste sort. Hein.
Disons, Nicole, que la situation dans ces deux villages est catastrophique parce que quand même, vous voyez, quand on parle de 100 personnes qui sont décédées dans un village, c'est quand même un problème très sérieux. Mais ce sont aussi les villages qui ont de fortes activités commerciales. Et dans ces villages, on a plus ou moins 2 ou 3 centres de santé. Mais ces centres de santé qui n'ont ni médicaments ni matériel nécessaire qui pouvaient permettre de contenir cette épidémie ou d'assurer une prise en charge correcte de malades. Alors, vu les difficultés, la population s'est rendue compte qu'aller dans les centres de santé, ça va être difficile parce que là, on ne va croiser ni médicaments, ni quelque chose, ni un bon secours. Alors, la population a commencé à se réfugier dans les églises. Et les autres personnes sont allées même consulter les devins parce que pour eux, ils ont pensé que ça serait être un mauvais sort. J'étais sur les villages. Comment se fait-il que beaucoup de personnes puissent mourir, surtout dans une même famille, 2 ou 3 personnes qui meurent 3 à 4 jours après. Beaucoup de gens ont eu peur. Ils ont cru, ils ont pensé qu'il fallait aller se réfugier dans les églises et il fallait aussi aller voir le devin. Et là, je veux vous dire que selon les sources médicales qui s'étaient rendues sur place de l'inspection, on nous a même raconté qu'il y a 4 malades qui sont partis se réfugier dans une église, et là vous vous rendez compte, leur état s'est empiré, et 2 malades sont morts à l'église, le pasteur lui-même qui priait pour le malade a été aussi contaminé, et il est décédé, le 4e qui a paniqué a pu fuir pour aller mourir à la maison au lieu de rester à l'église. Vous voyez là que c'est vraiment une grande souffrance. Pourquoi? Parce que le centre de santé n'était pas en mesure de prendre en charge ces malades, et les malades sont réfugiés chez les devins et dans les églises. On peut dire bien qu'ils étaient abandonnés à leur triste sort.
Dans les village de Kampongu et Mombomunene, c'est terrible, la situation est catastrophique, hein. On peut qualifier cela comme cela, Pierrot et Lamegi. Mais vous qui avez été sur place, on a peur, vous n'avez pas été exposé, puisque vous êtes là avec nous. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette maladie selon vous?
Oui, bon, là nous avons posé la question à l'inspection médicale provinciale. Elle a pensé d'abord que c'est une maladie de main sale, on pense à ça, mais on n'a pas eu vraiment à déterminer l'agent causal. Cela veut dire que le microbe, s'il faudrait utiliser les termes qui a causé cette maladie. Et là, ça demande des analyses très approfondies, bien sûr, pour parvenir à déterminer le nom de la maladie et quel est le microbe, son nom, bien sûr, qui a causé cette maladie. Mais par rapport à la façon dont la contagion est en train de se répandre dans la population, les sources médicales ont pensé que ça doit être normalement une maladie virale. C'est-à-dire qu'ils ont pensé et maintenant il faut que les analyses des laboratoires puissent confirmer. Et là, nous allons vous dire que lors d'une réunion d'évaluation tenue la semaine passée, à l'inspection médicale, ils ont pensé, comme je suis en train de le dire, à une maladie des mains sales. Cela veut dire que une maladie qui se contamine par les contacts avec le mec quand on touche le malade et puis on est contaminé. Mais avec la rapidité de l'expansion de la maladie, et ils ont pensé que c'est une maladie virale. Mais le nom de la maladie, y compris l'agent causal, reste à déterminer par rapport aux analyses qui vont être faites.
Voilà, certainement qu'avec Dr Ntumba Chitoka, ministre provincial de la Santé, on aura peut-être d'autres précisions sur le nom de la maladie hein, et sur les symptômes également. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas médecin, Pierrot, mais selon vous, hein, puisque vous avez eu à contacter certains responsables médicaux, quel est le comportement adopté en cas lorsqu'on se retrouve surtout confronté à cette maladie? Parce que finalement, elle est contagieuse, hein.
Oui, elle est très contagieuse. Et là, le comportement s'inscrit en deux cadres. Le premier cadre, c'est dès lors qu'on a déjà les signes sur soi, c'est-à-dire qu'on a déjà mal à la tête, on a la fièvre, on a déjà les douleurs, on fait la diarrhée. Et là, ce qu'il faut faire plus vite en ce moment, c'est de courir vers le centre de santé le plus proche pour qu'on soit pris en charge. Et là, la famille aussi a la responsabilité. C'est-à-dire que si votre prochain, celui qui est à côté de vous, présente déjà ses signes, il faut déjà comprendre que c'est sérieux, il faut l'amener à l'hôpital. Ça, c'est en cas, quand on est déjà, on présente déjà les signes, c'est-à-dire qu'on a déjà la maladie. Mais la deuxième règle, ça c'est typiquement l'hygiène, il faut respecter les mesures d'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains régulièrement avant de prendre le repas, après avoir fait aussi les selles, c'est-à-dire quoi, et quand on quitte les toilettes, il faut se laver les mains, il faut bouillir aussi l'eau avant de pouvoir la consommer, il faut cuire les aliments et puis couvrir les aliments, c'est-à-dire qu'il faut observer toutes les règles d'hygiène si possible. Il faut éviter de toucher le malade et tout ce qui appartient au malade. Et même s'il arrive que vous avez touché le malade, il faut plus vite vous laver les mains avec les savons. Évitez aussi de manipuler le cadavre. Vous savez, dans notre culture, avant d'enterrer quelqu'un, on le lave. Mais cette eau qui est utilisée pour laver, et ceux qui lavent, ils utilisent quel matériel pour laver?
Ils n'ont pas de gants.
Ils n'ont pas de gants. Alors, et là, on a demandé à la population d'éviter de toucher les cadavres, de manipuler les biens de malades, de se laver les mains. C'est-à-dire que d'observer toutes les règles de l'hygiène si possible. Voilà un peu les deux règles et ce qu'il faut faire en cas de cette maladie.
Voilà, nous nous rendons compte, Pierrot Lamagie, que vous êtes un grand spécialiste médical aujourd'hui dans cette émission qui est au Capi Action, compte tenu des contacts en fait que vous avez eu avec les responsables médicaux. Alors, pour évoluer sur la question, vous avez eu à aborder directement la population. Qu'est-ce qu'elle vous a dit à ce sujet, la population elle-même?
Oui, la population elle-même a un souci, c'est d'abord la rapidité de l'intervention au niveau de l'État. La population trouve que chaque fois quand il y a par exemple une maladie qui se déclare dans un milieu, l'État arrive, mais on se rend compte que l'intervention est tardive pendant qu'on a déjà enregistré des morts. Ça n'a pas été spontané, parce que vous voyez, c'est depuis le mois de mai, et puis bon, c'est peut-être il y a maintenant un mois qu'on intervient, et l'inquiétude de la population c'est ça. C'est-à-dire qu'ils veulent que chaque fois quand il y a une maladie qui se déclare, dès que cela est informé, dans les quelques jours qui suivent, qui est déjà l'intervention de l'État, comme ça on peut arriver.
Mais jusque-là, on n'a pas senti l'intervention de l'État.
Oui, l'intervention médicale. C'est ainsi que nous allons suivre ce que la population nous a dit.
Isama ya kushifa bantu bya kwenzi matu kwa buni bantu ba kufoi ba kufi ya buni watu jinabu kaba bika ni posibite materia siyo plasu wa kufoi kumwa wa kuyikutanya bantu guvernama ujuru kutuma londa kuni lijiru wa kuyikutanya bantu wa bantu umanu kumanu kufu bya buni turu kupeta mtinje londa kukunye bidibi enzalu tatu ni mwaji wa buni wane kuni mkwa bantu umanu kufu ba buni turu kupeta jambu luisha bantu umanu kufu na kutu itu sengelela wa guvernama wetu ikala utambu kutebelele mene mene kwa ngata en charge avant ke bantu ba fwa wanj kufweka utanyela ni chidichenze kanchenga
Voilà, en résumé, qu'est-ce que cette personne que vous avez rencontrée hein, nous a dit, Pierrot Lamagie?
Oui, oui, Antilouba, s'il faut dire le résumé, c'est qu'il veut que les soucis de la population, comme je venais de le dire, que le gouvernement intervienne dans les heures qui suivent, au lieu d'aller avec beaucoup de médicaments, mais pendant qu'on a déjà enregistré aussi beaucoup de morts. Alors, c'est ça l'inquiétude, que les gens sont morts, et maintenant on intervient, mais on intervient pendant qu'on a déjà enregistré beaucoup de morts. Mais si on peut commencer à être spontané dans la réaction par rapport à la déclaration d'une maladie sur terrain, ça peut être très bénéfique. Voilà un peu, en bref, c'est que notre auditeur...
Voilà. Alors, nous rappelons à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, pourquoi pas dans le CASAI, parce que ça concerne concerne particulièrement les villages Kampongo et Mombo Munene sur le territoire de Mweka et Lube. Nous avons appris là-bas qu'il y a plus de 100 personnes qui sont mortes des signes ou des symptômes semblables à une maladie proche de la typhoïde, mais on ne connaît pas exactement le nom de la maladie. Alors vous tous qui nous suivez là-bas, vous pouvez réagir au 081 070 20 50. Nous savons que c'est depuis ces trois derniers mois qu'on constate cette situation à Luebo et à Mweka. Alors aujourd'hui, vous venez de là, Pierrot. Quelle est la situation sur le terrain?
Oui, selon les dernières nouvelles que nous avons reçues tôt ce matin, avant que nous puissions entrer en studio pour présenter cette émission, Nicole, le ministre provincial de la Santé, qui sera d'ailleurs l'invité de l'émission tout à l'heure, qui est d'abord pour le moment sur place de ce côté-là où il y a la maladie, nous a fait voir quand même que l'épidémie est en train d'être maîtrisée. Car, vous savez, avant c'était au moins 8 décès par jour, mais jusqu'hier, on est arrivé à 0 décès quand même par jour, ce qui veut dire que la situation évolue depuis que l'équipe médicale est descendue, parce qu'on n'enregistre pas encore des morts comme c'était il y a quelques mois passés. On est allé de 8 décès par jour et aujourd'hui et jusqu'hier, tout soir, c'était 0 décès par jour. Et il y a aussi les mesures d'hygiène qui sont déjà mises en marche pour parvenir à contraindre la contamination ainsi que la prise en charge des malades. Voilà, ça dit que la situation évolue parce que maintenant, jusque ce matin, il y a déjà la réduction des taux de mortalité. Les mesures d'hygiène sont mises en marche et aussi la prise en charge des malades est assurée. Voilà un peu la situation jusque ce matin, selon le rapport du ministre provincial de la Santé qui est sur les lieux.
Et on aura d'ailleurs le ministre comme invité dans ce studio. Hein. Son nom, c'est le docteur Ntumba Chitoka. Il est notre invité. Vous pouvez réagir, auditeur de Radio Capi. Vous nous appelez simplement au 081 070 2050 ou écrivez-nous à action@radiocapi.net. Pierrot Elamegi, merci beaucoup d'avoir été les nôtres aujourd'hui et nous vous souhaitons bon courage là-bas dans le secteur, dans le territoire de Mweka et Luebo. À bientôt.
À bientôt. Merci Nicole. Bonne journée aux auditeurs de la Radio Capi.
Okapi. 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 Okapi.
Docteur Ntumba Chitoka, nous savons que vous êtes ministre provincial de la Santé. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous donner plus d'informations ce qui concerne cette maladie qui fait énormément de victimes, une maladie non encore identifiée et qui fait des victimes dans le territoire de Mweka et Luebo. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a plus de 100 personnes qui sont mortes de cette maladie non encore identifiée. Alors parlez-nous un tout petit peu de cette maladie, vous qui revenez justement de cette partie de la RDC.
Oui, merci madame la journaliste. Effectivement, cette épidémie existe bel et bien dans la contrée de Kampungu et Sungi Mulene dans le territoire de Mweka, voisin de Luebo, territoire de Luebo. Alors la maladie est reconnue à travers les symptômes suivants, qui arrivent chez presque tous les malades qui se sont présentés. Il s'agit de la fièvre, de vomissements répétés, de crampes abdominales, donc des coliques ou de douleurs abdominales intenses, des vomissements. Ce sont des signes qu'on rencontre généralement chez tous les patients. Et parfois, certains patients, des cas assez épaisses, ils présentent des maux de tête. Il y a parfois des douleurs lombaires et ou des malades, donc pratiquement deux femmes, ils ont développé, on a remarqué dans les selles un peu de sang. Mais alors, cette maladie, elle a commencé depuis le mois de mai, à la 18e semaine sur le plan du calendrier épidémiologique. Et on a reçu pour le moment les cas incidents, donc tous les nouveaux cas qui se sont présentés pendant cette période, autour de 247. Et aussi, on a dénombré autour de 85 morts. Alors, nos sources d'information sont les relevés épidémiologiques hebdomadaires dans les heures de santé et aussi les décomptes effectués par les comités locaux d'élite associés à l'équipe de la zone de santé de Mweka.
Oui, vous avez dit qu'il s'agit là d'une épidémie, mais c'est quelle épidémie? De typhoïde, de choléra, c'est quoi exactement?
Oui, en considérant les signes que nous avons évoqués, nous parlons d'une gastro-entérite fébrile dont l'origine n'est pas encore connue. Mais heureusement qu'une équipe de l'INRB est descendue sur terrain. On a fait des prélèvements il y a maintenant plus de 72 heures. Nous sommes en train d'attendre qu'on puisse identifier l'agent causal qui, pour nous, nous sommes en train de suspecter un virus. Un virus. Parce que on n'a pas les signes en rapport avec la fièvre typhoïde.
Oui, mais est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens pour faire face à cette épidémie? Vous avez parlé de 247 cas, il y a déjà 80 morts, et nous avons appris que la maladie elle est contagieuse. Alors, est-ce que vous avez tous les moyens en votre possession aujourd'hui pour limiter les dégâts?
Ah oui, c'est vrai, nous avons des moyens que le gouvernement provincial a mis à notre disposition. D'abord, sur le plan reconnaissance de la maladie, sur le plan clinique, nous avons pu dépêcher avant qu'on soit sur le lieu le professeur Dr Malou, qui est interniste et cardiologue. Il a pu étudier les cas avec l'ensemble du personnel de santé de la place pour, juste sur le plan clinique, essayer de nous orienter. En dehors de ça, le comité local de lutte contre cette maladie avait déjà pris des mesures d'hygiène assez consistantes pour barrer la propagation de la maladie. Et nous sommes descendus nous-mêmes sur terrain avec d'abord un lot important de médicaments évalué par 1,5 tonne que le gouvernement provincial a mis à la disposition. Il y avait tout le nécessaire pour la réhydratation des malades, les antibiotiques et les antiseptiques, et aussi les matériels de protection, par exemple le fourni de protection, par exemple les gants et autres. En dehors de ça, nous avons eu le courage de descendre sur terrain, au lieu même de l'épidémie, pour voir les malades. Et sur place, nous avons remis les médicaments.
Oui, nous avons vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit, mais la population, elle vous suit en ce moment. Elle a l'impression d'être abandonnée. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour la population? Parce que d'après les informations que nous avons eues, certains habitants sont allés se réfugier dans les églises pour se protéger. Mais là-bas, il y a eu quand même quelques cas de décès. Même le pasteur lui-même serait mort. Ça veut dire que la population, elle n'est pas protégée. Elle a l'impression que c'est une maladie qui est mystérieuse. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour tant soit peu informer la population et surtout les assister?
Oui, certainement. Je dis, il y a d'abord le travail du comité d'élite locale qui avait des messages. Dès que nous avons arrivé, on a pu élaborer et renforcer le même message en le reproduisant en plusieurs exemplaires que nous avons pu utiliser par la radio locale, à travers les chefs des cités et des quartiers, et à travers les responsables des églises. Il est vrai qu'un pasteur est décédé. Il est décédé parce que ici, les gens ont l'habitude, dès qu'ils sont malades, il y en a qui se présentent dans les églises pour croyant que c'est de là que Dieu va certainement intervenir pour le sauver. Mais dans le cas espèce, pour contrer tout ça, nous avons demandé. On a obligé au cours de nos rayons de sensibilisation et les contacts directs avec la population que dès qu'un malade est identifié, donc porteur de tous ces signes, qu'on ne les garde pas à l'église. Il faut qu'on l'oriente immédiatement au centre de santé.
Mais comment savoir?
Les dispositions sont déjà prises pour la prise en charge gratuite.
Certainement, mais docteur Toumba, s'il vous plaît, comment savoir que telle personne est infectée? Est-ce que ça se voit directement quand on se retrouve en face d'une personne infectée? Puisque la maladie, elle est contagieuse, vous l'avez confirmé.
Bon, ça, vous parlez, c'est vrai, c'est un matin sur le plan clinique. À travers les symptômes que nous avons évoqués un peu plus haut, on peut reconnaître les malades qui sont déjà déclarés. Mais pour éviter que la maladie ne se propage, nous avons pris des mesures qui communiquent à la population, les mesures d'hygiène. Entre autres, c'est salué. Donc dans les contrées, actuellement contrées de Lebo et Mweka, en tout cas, les gens se saluent par des gestes de poitrine et ne se serrent jamais les mains. Nous avons obligé aussi que l'eau à boire doit être bouillie ou doit être traitée. Nous avons demandé que tout le monde utilise le WC et il ne faut pas que, qu'on touche
oui,
les malades.
Docteur Toumba. Oui, docteur
oui,
Toumba. Oui, d'aucuns ouais. pensent que la mise en quarantaine des cas enregistrés serait une solution palliative.
Oui, c'est entre autres des mesures comme ça, parce que tous les malades sont carrément gardés au niveau de centres de santé. Mais on peut rencontrer certaines résistances. Alors, sur ces résistances, on essaie de renforcer la sensibilisation pour que les gens comprennent que le danger est grand.
Oui, alors donc on peut conclure que la situation épidémiologique était vraiment alarmante de ce côté-là.
Ah non, oui, alarmante c'était avant les décisions que nous avions prises, les mesures préventives et les traitements médicaux que nous avons appliqués. Avant ça, c'était alarmant, mais actuellement, il y a de l'espoir que nous sommes en train de maîtriser l'épidémie. Quoi.
Oui, ben alors, vous êtes en train de maîtriser, mais jusque-là, il y a encore un flou qui demeure quant à la nomenclature ou à la nomination de cette maladie. Donc, d'aucuns n'arrivent pas à savoir comment vous avez nommé cette maladie, parce que les recherches sont en cours.
Oui, c'est vrai, mais le flou est, c'est vrai sur l'identification de l'agent causal, c'est vrai, mais sur le plan des prises en charge, des mesures préventives, ça c'est, nous sommes déjà en train de très, très bien évoluer. Il n'y a pas de crainte. Nous avons orienté notre diagnostic de présomption, c'est vers une maladie virale. Et la maladie virale, généralement, c'est traite sur base de symptômes, on utilise le vaccin. Mais pour le moment, c'est à pas non tête les symptômes. Dès qu'on a maîtrisé ces symptômes, c'est que la maladie est maîtrisée aussi.
Oui, alors pour porter ces cours, est-ce que les corps médicaux sont suffisants pour venir en aide à tous ces malades?
Nous avons pratiquement au niveau de site même, il y a deux centres de santé, dans lesquels tous les malades sont orientés, et là-bas, et on a appelé les personnes de santé des centres de santé environnants et ceux travaillent dans les sites où les malades sont internés. Ils constituent déjà une bonne équipe. En Mouéka, on a organisé au niveau de l'hôpital SNCC pour recevoir certains malades qui se sont peut-être écartés du site. Et aussi à Lebo, il y a l'hôpital général de Lebo et l'hôpital CPC sur l'autre rive qui ont déjà positionner des kits pour la prise en charge des malades.
Oui, mais est-ce que le personnel a été préparé? Parce que bon, il faut retenir une chose, c'est que de ce côté-là, il y a des fortes croyances. Est-ce que le personnel a été préparé en conséquent?
Oui, notre système de santé est vraiment organisé actuellement. Là. Tous les infirmiers sont formés dans la surveillance épidémiologique. Ils savent ce qu'ils doivent faire devant tel. Ils suivent des formations, ils sont déjà préparés là-dessus.
Oui, une majeure partie de la population kanangaise est quand même commerçante, donc elles font des navettes par-ci par-là. Est-ce qu'au niveau des frontières, vous organisez aussi des surveillances épidémiologiques?
Oui, la surveillance, c'est pas seulement au niveau des frontières, c'est surtout étendue de la province. Mm-hmm. Nous avons des... Selon les découpages, nous avons des aires de santé qui notifient chaque semaine les cas. Et dès qu'on remarque qu'il y a un cas dont les caractéristiques ont été indiquées plus haut, ils l'orientent et on le prend en charge et puis on nous annonce. Jusque-là, au niveau des frontières, on n'a pas noté de nouveaux cas.
Oui, alors on va lire quelques questions de nos auditeurs qui nous viennent d'un peu partout. Il y a notamment depuis Kananga, il y a John Kayembe Kalala qui vous pose une question. Il dit pourquoi nos experts sanitaires manquent de précision quant à l'origine de l'épidémie. Il aimerait avoir la réponse, hein, dit-il. Il dit réponse s'il vous plaît. Nous reprenons ses propos.
Oui. Ça va, il y a ceci, c'est une question que notre ami puisse comprendre. Il y a, sur le plan microbiologique, il y a plusieurs, il y a des bactéries, il y a des virus, ainsi de suite. Mais les moyens diagnostiques que nous avons couramment ici, dans nos milieux, ce sont pratiquement pour mettre en évidence certains parasites ou certaines bactéries. Mais les virus sont détectés par des laboratoires spécialisés. Mmh. Dans notre pays, nous avons l'Institut National de Recherche Biologique qui se trouve à Kinshasa. C'est le seul institut qui nous permet de
de voir poser le diagnostic sur ce type de virus.
Oui, alors est-ce qu'on a fait le Widal ou encore la coproculture? Ça c'est Euseb qui vous pose la question depuis Kinshasa.
Oui, le Widal, c'est, ça a été fait, hein. Ça c'est un test qui est utilisé actuellement. Mais est-ce que sa sensibilité et sa spécificité ne sont pas connues, même sa valeur prédictive positive ou négative. Alors, le Widal est un test courant, mais on ne peut pas l'utiliser pour tirer des diagnostics et tirer des grandes décisions, des conclusions. Mais au niveau de pour le point de virus, ça c'est, je vous dis, c'est l'INRB qui doit faire ça. Coproculture aussi, sur place à Kananga, on ne sait pas, notre laboratoire provincial n'a pas des champs pour ce type d'examen. Et c'est toujours l'INRB pour le moment qui est chargé de faire la copro.
Voilà. Peut-être qu'il y aura d'autres précisions à l'avenir. Hein. Vous continuez les recherches, hein, j'imagine.
Oui, d'accord, tout à fait. Le désir que nous avons, c'est pour qu'on puisse avoir au niveau de chaque province des laboratoires type INRB pour essayer de contrôler les maladies dans notre pays.
Mais qu'est-ce qui vous manque? Le ministère de la Santé n'est pas informé, ne vous assiste pas ou quoi?
Sur quoi? Sur les laboratoires?
Bien sûr.
Ah, mais écoutez, ça c'est les programmes du gouvernement, hein. c'est pas l'affaire du ministre provincial. C'est le gouvernement de notre pays, je crois, dans son programme d'action, a prévu de réhabiliter les laboratoires et les équiper.
Oui, et donc, au niveau local, y a-t-il des ONG qui vous assistent ou qui travaillent en partenariat avec vous dans le sens de pouvoir sauver ces vies humaines qui sont en danger?
Oui, tout à fait, ça c'est certainement. Nous remercions l'apport de l'OMS juste dans l'investigation. Nous avons reçu aussi les Médecins sans frontières. Et puis même l'équipe sur le plan national sont venus nous appuyer. Mais il faut dire que le gouvernement provincial est intervenu sur le plan des médicaments, sur le plan fonds pour la motivation et même sur le plan de gratuité des soins.
Alors, pour qu'il y ait réellement un renforcement de la surveillance épidémiologique, il vous faut à peu près combien en termes d'argent?
Combien? Ah non, ça c'est une question qu'on ne peut pas répondre, il faut tout un budget.
Mais il y a plusieurs personnes qui vous suivent et qui ne comprennent pas toujours très bien pourquoi il y a eu tant de dégâts. Alors il y en a un qui nous dit, il y a 3 mois depuis que la maladie s'est déclarée, mais dit-il, l'IPS vient d'intervenir tardivement. Ne voyez-vous pas qu'il y a une négligence de la part des autorités sanitaires? C'est Clément depuis Kindu qui vous pose la question.
Bon, ça c'est... Je suis peut-être d'accord ou non d'accord sur ça, mais le problème est lié à notre système de surveillance. Le système de surveillance doit être renforcé à tous les niveaux, à travers tout notre pays. Ce système nécessite un personnel qui travaille, qui est motivé.
Voilà. Donc vous êtes en train de tout faire pour...
Un équipement conséquent et des intrants nécessaires. Voilà. Donc, c'est la situation assez
Docteur
générale.
Docteur Tumba Chitoka, nous retenons une chose, oui. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes à pied d'œuvre, hein, là-bas, en tant que ministre provincial de la Santé. Vous êtes en train de vous organiser pour limiter les dégâts dans les villages Kampungu et Mombo Monene, dans le territoire de Mweka. On aura l'occasion de revenir sur cette question pour voir comment la situation a évolué. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Hein. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres, Docteur Tumba, et bon courage. Hein.
Merci, madame. Merci.